BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Bien grand bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Il est 20h pile en ce mardi soir. Évidemment, nous allons passer une partie de cette soirée ensemble. Vous le savez, 20h, 21h30, chaque soir à la radio, à la télé, c'est Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Vos 90 minutes de tech avec au menu ce soir dans Tech & Co. Eh bien, on va revenir sur Nvidia et cette annonce qui est tombée aujourd'hui. Nvidia qui dévoile en fait une super puce dopée à l'IA, encore plus rapide que ce qu'ils avaient conçu. C'est assez impressionnant. On va évoquer ce sujet dans quelques instants. Et puis, il y a aussi ce constat. On va revenir chez nous, la France. Manque d'ingénieurs cruellement, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers. Et puis, autre sujet passionnant ce soir, c'est le quantique avec Mosaic. Mosaic, c'est un nouvel ordinateur qui a été fabriqué par Candela, qui est hébergé chez OVH Cloud. On va en parler tout au long de cette soirée avec, entre autres, Michel Paulin, le patron d'OVH Cloud, qui sera mon invité, mais aussi le fondateur de Candela. Merci d'être là. Bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu avec ce soir Yves Maître qui est là. Salut Yves.
Bonsoir.
Heureux de te retrouver mon cher Yves. Vous le savez, Yves Maître qui a travaillé chez HTC, qui est un spécialiste de la tech, de la VR, hein, puisque quand tu étais chez HTC, évidemment, c'était ton job. Et tu es aussi Operating Partner Jolt Capital. À tes côtés, c'est Frédéric Bianchi. Salut Fred.
Bonsoir. Bonsoir.
Journaliste à BFM Business et la famille aussi avec Fred Simotel. Salut
bonsoir,
Fred.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Évidemment, journaliste à l'excellente rédaction de BFM Business. Plein de sujets passionnants ce soir. On va parler d'Nvidia aussi dans quelques minutes. Mais pour débuter donc, OVH Cloud. Alors il y aura deux temps forts OVH. On va débriefer sur cette annonce de Mosaic et de ce partenariat avec Candela. Et puis tout à l'heure, je recevrai donc, je le disais, Michel Paulin, qui est le directeur général d'OVH Cloud, et Niccolo Somachi, qui est le cofondateur et directeur général de Candela, pour cette inauguration qui s'est faite en grande pompe, hein, avec des membres du gouvernement, du côté de Lille, je crois. Près de Lille, hein, c'était
à Croix.
À Croix, exactement. Voilà, donc nos deux invités tout à l'heure. Mais messieurs, donc voilà, c'est plutôt positif. Le fait que voilà, OVH Cloud s'associe avec une autre pépite de la tech française qui est Candela. Yves, est-ce que tu t'intéresses un petit peu au quantique, qui est un sujet quand même assez costaud, hein? Il faut quand même l'avouer.
J'espère qu'il va nous dire oui.
Alors, je pose cette question, mais je le sais parce que tout à l'heure, il m'a dit que ça m'intéresse. Donc,
d'accord.
C'est pour ça, tu vois. Je prends pas trop de risques quand même, malgré tout. Là, il pourrait m'avoir en me disant non, non, François, ça m'intéresse pas du tout. Là, ça serait une petite blague sympathique, le 1er avril, pourquoi pas. Mais plus sérieusement, est-ce que c'est un sujet que tu suis? Et est-ce que c'est, à ton avis, cette révolution, on va dire, de la puissance de calcul que certains imaginent dans quelques années?
Alors, d'abord, est-ce que ça m'intéresse? Ça m'intéresse beaucoup. Tu sais que ma formation, moi j'étais ingénieur en physique nucléaire. Donc quand tu fais la physique nucléaire, tu t'intéresses à l'infiniment petit. Et l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique et la physique quantique. Donc forcément,
et
on est obligé.
Fractales.
Voilà. Ça, c'est encore plus des mathématiques. Ouais. C'est un peu autre chose. Mais bon. Donc, alors, oui, c'est une révolution, mais peut-être. Pour expliquer, pour un peu démystifier la chose, parce que quand on parle d'ordinateur quantique, c'est un peu compliqué, parce que c'est pas tout à fait. Alors, peut-être qu'il faut expliquer les choses, on va essayer d'expliquer le plus simplement possible. Dans un ordinateur, on a des bits. Un bit, il a deux valeurs, soit il est à 0, soit il est à 1. Okay. Et
c'est un peu le fondement de l'informatique.
C'est le fondement
de l'informatique. C'est le langage de l'informatique.
C'est le digital.
C'est ça.
Ce qu'on appelle le digital.
Oui.
Donc, soit l'objet est dans un état 0, soyez dans un état 1, ok? Et un chipset, c'est, on le verra tout à l'heure sur Nvidia, 200 milliards de transistors, et un transistor, c'est comme un interrupteur, enfin c'est pas tout à fait ça pour faire simple, soit il est ouvert et le courant il passe pas, c'est 0, soit il est fermé, le courant il passe et c'est 1. Donc tout est basé sur des 0 et des 1. Dans le quantique, c'est autre chose, c'est basé sur une autre logique, enfin un autre paradigme qui est de dire, on peut être soit 0, soit 1, soit dans des états superposés. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la chose dont on parle souvent dans le monde quantique, c'est de dire c'est la dualité onde particule. Okay, donc quand on regarde un grain de lumière, okay, c'est soit une onde, hein, on a une onde, soit c'est une bille.
On a un vrai cours de physique quantique. Là.
Ah oui, non mais là.
Mais en fait, ça peut être les deux en même temps.
Il te manque plus que le tableau Velleda, le petit feutre. Et, donc, j'en suis et on y va. Et nous, on serait là, en train de prendre des notes.
Non, mais déjà, j'ai le nom de famille en m'appelant maître.
C'est bon. C'est vrai.
Bon. Et si tu veux, aujourd'hui, avec un ordinateur normal, on fait des calculs avec des 0 et des 1. Avec un ordinateur quantique, on a des états intermédiaires. Donc, on fait beaucoup plus de calculs parce que l'objet sur lequel on calcule peut avoir plusieurs états. Donc, on multiplie les puissances de calcul de manière exponentielle. Donc, c'est ça la grande différence. Par contre, on ne peut pas faire tous les calculs. Donc, autant un ordinateur, c'est plus général, on fait des calculs sur à peu près tout,
d'accord,
dont l'intelligence artificielle. Mmh. Sur du quantique, c'est vraiment sur des algorithmes de grande complexité et dans certains domaines. Donc,
C'est-à-dire qu'en fait, le quantique ne va pas révolutionner l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les deux cohabiteront.
Absolument.
Pour
absolument.
Certaines tâches, oui, il y aura toujours les 0 et les 1.
Absolument.
Expliqué. Et
absolument.
Puis pour certains calculs, on va dire hautement complexes, etc., là, le quantique prendra le relais.
Absolument.
Et là, la révolution, c'est que certains calculs qu'on n'ose même pas imaginer aujourd'hui, de par leur complexité, pourront être envisagés.
Absolument.
Grâce au quantique, c'est ça. Hein.
Absolument. Mais c'est pas du tout les mêmes types de programmation. C'est-à-dire que on me disait, alors moi j'en ai pas fait, donc je vais probablement prendre quelques cours pour essayer de comprendre moi-même, le faire moi-même. Mais on me disait, il faut que tu désapprennes tout ce que tu as pu apprendre sur la logique binaire, sur le digital, pour reprogrammer sur des ordinateurs avec une logique analogique. Donc, c'est vraiment un
on va
autre
pas y aller tout de suite, nous, hein, non, je sais pas ce que vous en pensez.
Parce que même dans les télécommunications, tu peux avoir deux particules qui peuvent avoir le même état et qui sont pourtant séparées. Et pourtant, l'information passe. Enfin, il y a tout un ensemble de systèmes. Mais c'est vrai qu'on retrouve ça, le chiffrement, on va le retrouver dans la sécurité.
C'est-à-dire qu'elles sont séparées, excuse-moi, c'est intéressant ce que tu dis. Elles sont séparées, mais malgré tout, l'information passe.
Oui.
Et elles peuvent être séparées.
Une sorte de télépathie, on va dire.
Voilà, elles peuvent être séparées de distance incroyable.
Oui, oui.
C'est presque mystique. Il y a un côté un peu étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend pas ce qui se passe.
Philosophiquement, c'est.
Philosophiquement, c'est étonnant. Hein.
Alors, c'est à la fois de l'informatique, c'est à la fois de l'informatique, c'est à la fois de la mécanique, c'est de la physique, c'est de la chimie. On est au zéro absolu. Hein, c'est moins 273 degrés. Donc voilà, c'est pas n'importe quel ordinateur. Et puis derrière, on va dire pour simplifier un peu, on a le chiffrage sur la sécurité, donc le cryptage, enfin le chiffrement des données. On a autre chose, ça peut être le calcul. La simulation informatique, voilà, pour dire tiens, on va créer tel type de médicament, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme effet sur tel type de personne avec tel type d'ADN et tout ça. Et puis on a le dernier qui est l'optimisation combinatoire. C'est on va trouver le meilleur chemin pour un livreur pour arriver au bon endroit, c'est la meilleure fluidité sur un avion, enfin voilà, c'est un peu les trois principaux calculs. Et derrière, voilà, c'est des machines qui coûtent cher. On n'y est pas encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on parle d'ordinateur quantique, mais on n'y est pas. On a des choses qui simulent un peu.
Le mosaïque qui a été inauguré dans les locaux d'OVH, c'est pas tout à fait un ordinateur quantique.
On posera la question tout à l'heure à Michel Pollard. Rentrer dans les détails, mais après, il y a deux voies qui sont prises entre Candela et Pascal, par exemple, ils n'ont pas pris la même voie pour développer leurs ordinateurs quantiques. Hein. Il y a différentes technologies aussi dans ce domaine. Donc là, Candela en prend une autre. Mais voilà. Et on a la chance, en France, d'être plutôt fort dans ce domaine, de pouvoir se positionner dessus. Mm-hmm. Il y a un plan quantique qui est mené.
Il y a eu, le plan France 2030
voilà,
aussi.
Exactement. Il y a quelques milliards de là. Et ce qu'il faut, et les entreprises commencent à y aller. On sait qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises investissent minimum 1-2 millions d'euros, de dollars dans ce domaine, parce que aujourd'hui, toutes les études le disent, hein, il faut aller vers le quantique dans quelques domaines que l'on soit, dans le luxe, dans la chimie, il faut commencer à regarder ça, parce que celles qui y vont maintenant auront un avantage concurrentiel plus tard.
Alors évidemment, ce partenariat entre Candela et OVH, Fred, c'est bien parce que, évidemment, c'est en termes de souveraineté technologique, On envoie un bon signal. Ça sera réservé, je pense, à la recherche au départ, hein, parce que, bien sûr, là, on a une bête de compétition, il faut savoir la faire fonctionner, hein, cet appareil-là.
Alors, c'est justement ça, l'objet de l'accord avec OVH, Cloud, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Donc, les services, la puissance de calcul va être fournie à des utilisateurs qui pourront tester et éventuellement développer des applications. Alors, on verra avec Michel Paulin tout à l'heure, pour savoir si c'est un vrai ordinateur quantique, ça reste un ordinateur quantique très basique. Hein. On sera sur 12 qubits. Imaginons un ordinateur qui aurait 12 bits aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment très petit.
Ça va être du chiffrement
et l'ouverture aussi donc sur le cloud d'OVH pour essayer de développer des applications. On parle d'une technologie, du deep tech là quand même. On est vraiment à la préhistoire du quantique. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui, sur le plan expérimental, montent à 1000 qubits. Donc là, on a dit 12. On peut monter à 1000, voire au-delà. Hein. On parle de solutions, je crois que chez Pascal aussi, l'autre pépite française, on aurait développé des machines jusqu'à 1000 qubits. Mais la difficulté, c'est qu'au plus on a de grandes puissances de calcul, au plus il y a aussi beaucoup d'erreurs à corriger, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et ça, corriger les erreurs, ça met énormément de temps. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui n'est pas encore maîtrisée. Mais on peut se réjouir que la France a trois pépites, hein, parce qu'on a parlé
Candela,
on a Pascal, on a aussi Alice et Bob, hein, qui est une start-up française sur le quantique. On est peut-être aujourd'hui en Europe le pays le plus avancé. Alors il y a les Américains aussi avec IBM qui sont loin devant, mais c'est vrai que le plan quantique, je crois qu'il est doté d'une enveloppe de plus d'un milliard d'euros sur 5 ans. La France met le paquet là-dessus. Alors ça reste avec un point d'interrogation. Est-ce qu'un jour l'ordinateur quantique verra vraiment le jour, hein, parce que là, aujourd'hui, on parle vraiment de proto-machines. Est-ce que ça verra le jour? On ne sait pas, en tout cas, la France.
On parle de 2035-2040, pour avoir vraiment les premiers effets.
Juste, Yves, comment sont les Américains là-dessus? Parce que là, on parle de notre innovation franco-française, mais il faut savoir que Google investit énormément aussi dans le quantique, notamment. Et j'imagine que tous les autres aussi.
L'Asie, on ne sait pas trop.
L'Asie, pas d'accord.
Les États-Unis et l'Europe, on connaît. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le cloud, on est en retard. On a été en retard. Donc après, on a des sociétés comme OVH qui ont essayé de rattraper le retard, mais face à AWS, Azure, on a eu un train de retard. Sur les AI, on est à jour. Hein, on a Mistral, qui challenge, on est à jour. On est plutôt, dans le monde entier, on est reconnu comme étant, on est monté dans le train au bon moment.
On est au niveau d'OpenAI.
Ah, on est
quand même.
On est à jour. C'est quelques mois.
D'accord.
C'est 6 mois, c'est 8 mois, mais c'est rien, 6 mois, c'est rien. Okay. Dans le quantique, avec les Américains, on est en avance, et je dirais même par rapport aux Américains, on est en avance. Et ça, c'est intéressant, parce qu'une société comme OVH, elle met cet ordinateur quantique, qui est un des premiers ordinateurs industriels quantiques. C'est vraiment un des premiers. Certes, il est tout petit, mais c'est un des premiers ordinateurs qu'on peut acheter. Alors, ça coûte des fortunes, donc on ne peut pas l'acheter pour soi. Mais
je ne sais pas ce qu'on en ferait, surtout.
1 million d'euros.
Mais on apprend à programmer. On apprend à programmer, on apprend à faire du logiciel, on apprend à s'en servir. Parce que c'est un tel changement, il va falloir des années pour que ça sorte des laboratoires. Je ne parle pas uniquement l'ordinateur, mais qu'on sache le programmer, qu'on sache l'utiliser, il va falloir des années. Ce qui est intéressant, c'est que quand ça va exploser, on aura l'écosystème qui va pouvoir continuer cette avance qu'on a.
Est-ce qu'on peut faire fausse route? Est-ce qu'on peut se dire, dans quelques temps, que finalement, toute cette recherche, tous les espoirs qu'on misait sur cette informatique quantique n'est pas réalisable? Est-ce qu'on peut aller vers une impasse?
Écoute, a priori, je pense pas. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même...
Dans le domaine de la simulation, c'est pas possible.
Enfin, il y a un consensus pour dire que...
Il y a des voix discordantes quand même. Hein. Il y a des gens comme Alain Aspect, qui est prix Nobel qui fait partie d'ailleurs de Pascal. Hein. Pascal, je crois qu'il est conseiller.
Mais c'est juste parce qu'ils ont pris des voix différentes. Ils n'ont pas pris la même voix que Candela, donc ça veut dire
qu'il y a deux voix différentes. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, en théorie?
Alors là, peut-être. Hein, on aura.
Donc ça veut dire que peut-être la voix de Candela n'est pas la bonne, ou peut-être celle de Pascal n'est pas la bonne.
Mais c'est comme les processeurs IA aujourd'hui sont développés d'une certaine façon. Il y a des choix qui sont faits. Ben peut-être que quelqu'un va trouver un jour la martingale pour les développer encore moins.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'échec est possible.
Mais l'échec est toujours possible. Et heureusement que l'échec est possible, parce que d'abord, si on
ouais, mais enfin, si on pouvait ne pas avoir d'échecs,
mais si, mais si, bien. Mais si, ben, regarde, quand tu apprends à marcher, tu tombes. Okay, ouais. Moi, j'ai jamais vu personne qui marchait en lisant un PowerPoint. Ok, tu tombes et tu remarches. Donc, je pense que ça fait partie de la recherche. L'échec, c'est ça fait partie de l'échec de la recherche. Et donc,
non, oui, mais ce que je veux dire par là, ça serait bien que
mais
la France.
L'échec, à mon avis, il n'est pas théorique, parce que théoriquement, on sait où ça va. C'est comment j'industrialise le plus rapidement possible au meilleur coût. Ça, c'est un autre challenge.
Et comment je ramène des compétences? Alors, on a aujourd'hui, on a le pôle de Saclay, hein, de recherche. On a déjà des divisions de quantique à Polytechnique, comme Paris, enfin
au CEA,
on a toutes ces écoles. On a un fonds aussi, faut pas l'oublier, Cantonation,
plein de start-up
avec qui finance, qui est le premier fonds, je pense, européen aujourd'hui dans ce domaine. Et voilà, nous, là, on a décidé de se projeter plus à 2035 que sur l'IA, mais c'est pas plus mal. Et je pense que le pari que fait OVH, alors, oui, il y a un pari technologique, hein, mais c'est pas le premier qu'a fait Octave Klaban ni Michel Collin.
Évidemment, juste petite question, il est pertinent de mettre toute cette puissance de calcul dans le cloud, forcément. Enfin, je veux dire, ça a du sens, parce que c'est le partenariat justement entre Candela et OVH Cloud.
Le but de le mettre dans le cloud aussi, c'est de le proposer à d'autres, c'est le proposer entreprises, c'est le proposer, ils le disent aussi à des étudiants, hein, des étudiants qui arriveront avec des projets ou des startups, évidemment.
Il faut l'ouvrir, il faut créer cet écosystème. Si on garde quelque chose pour soi, on ne crée pas un écosystème, l'ouvrir.
Dernière question que je posais tout à l'heure à Michel Paulin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un coup de com', ce partenariat Candela-OVH Cloud, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, ça va déboucher sur quelque chose? Parce qu'on pourrait très bien se dire aussi que...
C'est pas un coup de com', ils ont quand même mis de l'argent, ils ont des investisseurs derrière.
C'est très bien qu'OVH a eu des moments difficiles.
Oui, mais ils ont des... Alors, c'est peut-être on pourrait voir ça un coup de com' pour dire, regardez, d'accord, la bataille du cloud, enfin, telle qu'on le conçoit, comme avec les hyperscalers, les AWS... Voilà, là, elle est plutôt gagnée par eux. Ben nous, on va utiliser notre cloud. On s'oriente vers d'autres voies, et notamment le quantique. Je pense que c'est plus vers là qu'il faut parler. Après un coup de com', il y a quand même de l'investissement. Il y a un pari technologique qui est fait, un pari financier aussi. Il y a quand même des investisseurs derrière. Ils ont dit oui parce qu'ils y croient. Mais donc
après, le montant de la transaction est secrète, non? On a des informations.
L'engin en question, je crois que c'est 1 million. Même si c'est un coup de com', François, c'est quand même un bon coup de com'.
Ah non, mais bien sûr.
Un coup de projecteur sur la recherche, un coup de projecteur sur ces technologies qui sont assez obscures. Et là, c'est vrai qu'avec les déplacements de deux ministres, on en parle. Ça met la technologie entre les mains, comme le disait Frédéric, d'étudiants, d'entreprises, tout ça. Bon, ben, la com', c'est pas toujours négatif. Et là, si c'est que de la com', c'est de la com' plutôt positif.
Regarde OpenAI, hein. Enfin, c'est beaucoup de techno, mais beaucoup de com' aussi. Hein.
Parce que c'est ce que j'allais dire dans le domaine des coups de com', les Américains.
Il faut faire des coups de com' avec ces technologies.
Oui, mais excusez-moi. OpenAI, compliqué de comparer ChatGPT, etc. C'est compliqué de comparer cette association, enfin ce partenariat entre OVH et Candela et OpenAI, parce que OpenAI,
il y a une application directement en termes de com'. Voilà.
Oui, en termes de com', parce que le jour où on a vu ChatGPT, enfin, on s'en est pris plein la figure, et je pense qu'il va être compliqué peut-être pour OVH et pour Candela de nous montrer, enfin, de montrer au grand public les effets, on va dire, direct de cette association.
Mais malheureusement, on ne les verra jamais. Le quantique, c'est des applications B2B. Ouais. C'est par exemple, aujourd'hui, je crois qu'un ordinateur n'est pas capable d'optimiser un trajet de livreur quand il a plus de 10 arrêts à faire. Au-delà de 10, il n'y arrive plus.
Ça, c'est l'optimisation combinatoire.
Le quantique pourra optimiser les trajets, 10, 20, 30 arrêts. Voilà, ça
explose. En fait, il arrive à exploser les probabilités, les calculer.
Si tu résumes, tu imagines, tu as une table en bois avec un labyrinthe, et avec un ordinateur traditionnel, tu as ta bille, tu vas aller à droite, à gauche, pour essayer de la faire sortir du labyrinthe. Là, l'ordinateur quantique, il a toutes les solutions, tous les tableaux en bois, ils sont devant toi. Tu lances ta bille au même moment dans tous les trucs, et à un moment, elle sort parce qu'il y en a un qui est juste. Donc, c'est un peu ça. Donc, on résout le calcul tout de suite.
Mais c'est vrai que le grand public ne verra pas des applications. C'est pas un ordinateur qui va améliorer les graphismes de GTA 6, par exemple.
Mais est-ce que ça peut bouleverser, par exemple, la puissance de l'intelligence artificielle générative? On parle beaucoup de puissance de calcul. On va parler d'NVIDIA qui a annoncé une nouvelle puce. Est-ce que ça peut bouleverser
pour amener
l'IA
de la data, je pense, autour de la data. Moi, je vois surtout ça dans le domaine de chiffrement, la sécurité.
Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment dans d'autres domaines.
La simulation. Ouais.
Pas de la puissance brute de calcul qui nous.
Ça remplace pas l'informatique. Hein. Okay. C'est pas une nouvelle informatique. Hein.
Je vais être un peu méchant parce que les ingénieurs en physique quantique disent l'AI. C'est quand même du calcul de bourrin, quoi. C'est beaucoup de calcul, pas beaucoup de finesse. Ça, c'est pas gentil de dire ça.
Non, c'est pas gentil.
Les gens de la quantique disent non, non, nous, il y a beaucoup de finesse, c'est beaucoup moins général,
mais pas beaucoup
c'est
de calcul
plus spécialisé, mais
il y a pas beaucoup de calculs pour le moment.
Mais on est dans un autre domaine et je pense que ça va révolutionner des choses. Par exemple dans la distribution de l'énergie, par exemple dans la logistique, par exemple dans des calculs d'aéronautique, etc. Oui, là ça va changer les choses. Pour notre vie de tous les jours, de faire la cuisine, probablement pas.
Et puis un dernier mot, hein, OVH et Candela, c'est pas une structure publique qui est vouée à faire de la recherche pour la recherche et faire travailler des étudiants, c'est super. Non, le but c'est d'aller voir des entreprises et de leur dire,
ben,
les entreprises
de
livraison, les entreprises de qui vont optimiser leur parcours d'avion, les calculs que l'on peut faire aujourd'hui pour optimiser les routes des, enfin voilà, pour optimiser ce que l'on vient de dire dans l'optimisation combinatoire. Le chiffrement, la sécurité, c'est aller voir toutes ces entreprises et leur dire, venez chez nous, venez tester, on est là. Et puis voilà, c'est une façon d'attirer ses clients sur un autre domaine, dire, gardez vos autres choses, si vous voulez, chez AWS et Google Cloud, mais voilà, nous, on est là sur ce domaine.
Il va falloir, j'imagine, avec ce nouvel outil, créer de nouveaux métiers aussi, non ?
Ah oui, il va y avoir.
On est d'accord.
Il va falloir de nombreux ingénieurs aussi.
C'est une belle transition. C'est une belle transition que j'essaye de mettre en place.
La passe décisive, comme on dirait chez nos copains des RMC.
Non, mais sérieusement, parce que c'est vrai que, vous le savez, la France manque d'ingénieurs aujourd'hui. Et selon le Syntec Ingénierie, nos entreprises vont avoir besoin de 80 000 personnes d'ici à 2030. 80 000, 2030, c'est dans un peu plus de 5 ans. Hein. Problème, alerte l'organisation professionnelle, donc il va nous en manquer plusieurs dizaines de milliers. Et Jean-Baptiste Thuet nous a fait un petit reportage qu'on écoute, et après, évidemment, on va commenter tout cela.
Mais où sont les ingénieurs ? Le Syntec Ingénierie alerte, 80 000 nouveaux emplois sont à pourvoir d'ici 2030, seulement, faute de professionnels formés, 20 000 postes sont susceptibles de rester vacants. Ceci au moment même où des secteurs comme la décarbonation industrielle et l'intelligence artificielle sont en pleine expansion. Hydrogène, nucléaire, algorithmes, cybersécurité, en cause, un vivier d'étudiants insuffisant et une offre de formation incomplète. Une pénurie de talents, explique le Syntec, qui pourrait représenter pour le seul secteur de la construction, jusqu'à 4,2 milliards d'euros de manque à gagner. Alors, quelle piste pour s'en sortir ? Le Syntec veut davantage promouvoir les métiers d'ingénieurs, en particulier au sein des établissements scolaires et surtout élargir, coûte que coûte, les viviers de recrutement. Seuls 30% des ingénieurs diplômés chaque année sont des femmes et peu sont issus de milieux défavorisés.
Voilà, des dizaines de milliers de futurs ingénieurs. Il faut susciter des vocations auprès des ados, hein, et en tout cas des jeunes qui nous écoutent. Après, ça peut être aussi une seconde carrière, hein, dans une vie professionnelle. Pourquoi pas ?
On en a vu, oui.
On le disait, avec le quantique, il y a plein de nouveaux métiers qui... Enfin, de nouvelles manières de penser, parce que tu le disais, c'est une autre manière de penser l'informatique. Il va falloir l'enseigner aussi, cette...
Et il va falloir former des enseignants.
Voilà. Et ce manque d'ingénieurs, c'est un problème, hein.
Non, mais c'est un vrai problème. En plus,
j'ai envie de dire, c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau. En plus, ingénieur, ça se conjugue plutôt au masculin. Donc, en plus, on va puiser dans un réservoir qui est plutôt masculin, parce qu'on n'arrive pas non plus à attirer davantage de femmes. Alors qu'on aurait des femmes en plus, ça doublerait quand même le réservoir. Non, on a un vrai souci. J'étais à une conférence il y a quelques jours. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui disait c'était en France, hein, que 40% des jeunes. Alors des jeunes ados, pré-ados, tout ça était pas déprimé, mais un peu regarder l'avenir un peu de façon morose, parce que le contexte géopolitique, parce que la planète brûle, parce que les métiers, on sait même pas, on se dit je vais apprendre un métier, mais
oui, dans 6 mois il est peut-être obsolète.
Il était obsolète. On voit l'IA arriver, on entend dire les robots vont nous remplacer. Enfin, il y a un côté, et donc du coup cette personne estimait que ça pouvait être un peu le lien avec le fait que les gens cherchent d'autres types de métiers qu'aller vers des métiers scientifique, parce que justement là ils ont, en plus, bon, je reviens pas sur l'effet Covid où la science a été remise en cause et tout ça, et donc il y a cet effet là donc il faut redonner envie à la science. On a une Miss France, je crois, qui va être ambassadrice mathématique,
mathématicienne,
et je pense que c'est de ça dont on va avoir besoin, c'est des ambassadeurs, ambassadrices pour donner envie, qu'on a bien dans le sport des gens qui donnent envie de faire du foot, de faire du tennis, de jouer au flipper, tiens. et voilà, et il faut
qu'on adore le flipper avec
Bref, on manque aujourd'hui un peu de modèles. On avait un Cédric Villani, mais bon, il a un peu disparu de la circulation. Là, aujourd'hui, on part à Arthur Mensch. À nouveau, on le réinvite ici pour qu'il montre un peu que c'est possible. Alors lui, c'est un cerveau particulier, mais voilà, que c'est possible.
Il y a Le Goun, par exemple.
Ouais, oui. Tu dis Yann LeCun.
Je ne sais pas si les anglo-saxons ils l'appellent LeCun parce qu'ils ne disent pas LeCun.
Oui, c'est amusant. Non, on ne l'a jamais appelé comme ça, mais bon, c'est vrai.
Je voudrais quand même remettre quelques chiffres. En France, on forme 40 000 ingénieurs par an.
45 000. Un peu plus.
45 000. 50 000.
Allez, je t'accorde. Il en rajoute 5.
Okay. 50 000, on n'y est pas justement, c'est l'objectif du
gouvernement. Aux États-Unis, 250 000.
Et en Chine.
Ok. Bon.
Après, il n'y a
en
pas
Chine,
la même population.
Et... 1,2 million. En Inde, 1,5 million. Ok. Alors maintenant, on fait un petit calcul. On dit 40 000. J'ai fait sur 40 000, je suis désolé. Bon, on rajoutera 10%. Alors. On prend 40 000. On multiplie par 40 ans, une génération. On commence son école d'ingénieur à 20 ans, on sort en retraite à 65 ou 25 ans, 65. Enfin, donc c'est 40 ans. Ces 40 ans-là, on forme des ingénieurs pendant 40 ans. Une génération d'ingénieurs en France, c'est une année d'ingénieurs qui sort en Inde. On prend la première école d'ingénieurs, 1747, c'est les ponts et chaussées en France. 230 ans. Eh bien, en 10 ans, L'Inde a fabriqué autant d'ingénieurs que la France dans toute son histoire. Alors on se dit, ok, on peut en faire 10 000 en plus, 20 000 en plus.
Après, c'est pas le même nombre.
Enfin, on n'est pas dans la.
Pas le même nombre d'individus aussi.
Il faudrait
peut-être pondérer par rapport au nombre d'habitants qu'il y a.
Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est.
Oui, c'est vrai que les chiffres sont impressionnants comme
on
ça.
On n'est pas dans la même cour, ok. Alors. Soit on se dit...
Il y a 1 milliard d'habitants en Inde, hein, c'est ça à peu près, non ?
Plus d'un milliard.
L'Inde a dépassé la Chine, oui.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, bien sûr, il faut former, mais ça, c'est du long terme. Et ça fait des années qu'on en parle. Moi, quand j'étais en école, on en parlait. Il y a un autre moment, il faut se dire, ben, si on veut attirer des talents, que nous, on en fait 40 000, qu'eux, ils en font en Inde 1,5 million, ben, va peut-être falloir faire de l'immigration. L'immigration de cerveau, l'immigration d'ingénieurs dont on a besoin. Parce que il faut regarder la réalité en face.
Ce que font les États-Unis d'ailleurs.
Ce que font les États-Unis.
Ce qu'on fait en France,
quand vous allez dans la Silicon Valley, honnêtement, vous avez un paquet d'Indiens, un paquet de Chinois, enfin Indiens, Pakistanais, etc., Chinois,
et le nombre d'Indiens qui sont à la tête de grandes entreprises américaines,
Nvidia,
Sundar Pichai, Satya Nadella,
Microsoft,
AMD, Microsoft, voilà. Bon. Eh bien, je pense qu'il va falloir se poser la question de la formation, et ça c'est entendu, mais aussi de l'immigration de ces cerveaux. Parce qu'on ne peut pas rivaliser par rapport à ces puissances qui forment 1,5 million d'ingénieurs par an. Ce n'est pas possible. Il faudrait que 10% des Français deviennent ingénieurs tous les ans. Pas possible.
Juste un mot pour finir sur une note positive. D'abord, il faut rappeler qu'on n'a jamais autant formé d'ingénieurs en France qu'aujourd'hui. Hein. 45 000, on n'en a jamais autant formé. Tu disais tout à l'heure 250 000 aux États-Unis, à peu près 50 000 en France. Bah, c'est à peu près le même ratio que la population. Donc finalement, les Américains ne font pas plus d'ingénieurs que les Français. Hein. Ils sont 5 fois plus, ils forment 5 fois plus d'ingénieurs. Bon, on est à peu près dans les mêmes ratios. Ensuite, ce qui est intéressant avec le Syntec, c'est justement cette campagne, parce que l'objectif du débat, c'est de dire ce que fait le Syntec Ingénierie. Donc, ils vont lancer une campagne, justement, à destination des jeunes de 13 à 18 ans pour dire les métiers de l'ingénierie sont divers, les métiers de l'ingénierie sont intéressants. Éventuellement, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est les métiers de l'ingénierie sont bien payés. Parce que c'est ça aussi qui attirera les jeunes, hein. C'est de dire qu'on fait de belles carrières dans l'ingénierie. Donc c'est ça.
Parce que c'est 5 ans d'études. C'est 5 ans d'études, être ingénieur.
5 ans plus d'études. Après, on peut faire une thèse.
C'est des bons salaires, c'est des perspectives de carrière en France, à l'international. Et puis, les écoles ne restent pas les bras croisés non plus. Hein. Il y a plein d'écoles. Je crois que à Centrale Lille, par exemple, un quart des ingénieurs formés actuellement viennent de l'étranger. Donc, on forme aussi quand même des ingénieurs étrangers. Les écoles aussi vont de plus en plus chercher des étudiants qui sont en BTS ou en IUT, donc des techniciens, pour justement leur dire, essayez d'aller plus loin, venez chez nous, on va vous former au métier de l'ingénierie. Donc voilà, on reste pas les bras croisés, on forme beaucoup d'ingénieurs comme on n'a jamais formé dans ce pays. Alors c'est certes pas assez, mais voilà, il y a des choses qui se font et on va y arriver.
Et il faudrait peut-être revoir aussi la partie éducation. On n'insiste pas assez sur les maths. Il faut arrêter de dire que les maths, c'est compliqué, tout ça. Les statistiques, ça a un côté... C'est une gymnastique de l'esprit. Il faut arrêter de cantonner les maths. Je ne comprends rien en maths et tout ça.
Et notamment auprès des publics féminins. C'est vrai qu'on forme aujourd'hui un tiers d'ingénieurs qui sont des femmes. Et c'est vrai qu'il y a ce blocage tout le temps
On peut être ingénieur en ne faisant autre chose que des maths, quand on fait la biodiversité Gauthre, on ne fait pas que des maths. L'ingénierie, ce n'est pas que de la physique et de la
recherche. C'est pour ça que je dis qu'il faut des exemples, il faut des gens qui montrent l'exemple, il faut parler de ces métiers, il faut en parler autrement que le développeur en suite à capuche, parce que ce n'est pas que ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et puis voilà, bah, nous on est même prêts à aller dans les écoles pour leur raconter la
vie. Ah, mais ça c'est clair. Voilà. C'est vrai, ça serait une bonne initiative, ça. Hein
non, mais on leur parle de tout ça. Regardez, voilà. Vous allez faire des voitures.
Faire un Tech & Co et leur expliquer.
Vous allez partir dans l'espace, vous allez faire tout ça, vous allez travailler sur des nouvelles.
Yves aura son tableau pour le quantique. Voilà. Ouais. Là, il ne faut pas que les jeunes décrochent quand tu nous expliques ça. Hein, ça va être, mais on va tenter. Vous restez avec nous. Les deux Fred, Yves, la suite de Tech & Co, la quotidienne, dans quelques instants. On reviendra sur cette annonce d'NVIDIA, donc avec ses super processeurs qui accélèrent la puissance de calcul de l'intelligence artificielle. On évoquera aussi Apple qui pourrait s'acoquiner avec Google. Tu en parlais hier dans Tech & Co, avec Gemini. Et ça pose plein de questions, notamment en termes de vie privée, parce que d'un côté, on a Google, tout est open bar en termes de vie privée, et de l'autre côté, Apple capitalise. C'est un business. La sécurité des données. On évoquera tout ça juste après l'info éco. Il est bientôt 20h30. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Ouais, on m'a coupé la chic jusqu'à 21h, donc on débriefe l'actu tech avec Frédéric Bianchi qui est là, journaliste à BFM Business, Yves Maître. Voilà, Operating Partner, Joel Capital, consultant, ancien PDG de HTC, Frédéric Simotel, bien sûr, journaliste lui aussi à BFM Business. J'aimerais qu'on parle maintenant de NVIDIA, puisque vous le savez, c'est l'événement de l'année dans le monde de l'intelligence artificielle. Et en fait, cet événement est comparable à celui d'Apple qui présente un nouvel iPhone. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. NVIDIA organise pendant 4 jours une énorme conférence de développeurs pour présenter en fait toutes ces nouveautés. Et certains parlent même d'un Woodstock de l'IA. Anthony Morel nous en parlait ce matin dans la matinale.
On a l'impression d'être plus à un concert de rock, si vous voulez, qu'à une conférence développeur, parce que c'est ça quand même, hein, cet événement, grand événement organisé par NVIDIA qui veut montrer une fois de plus qu'il est au centre de la révolution de l'intelligence artificielle. Et donc là, on est dans une salle de concert, il y a 18 000 personnes, 300 000 personnes attendues en tout, en présentiel et en distanciel, donc Woodstock, ça doit être à peu près ces chiffres-là, avec comme rockstar, j'allais dire, Jensen Huang, qui est le patron d'NVIDIA, emblématique, le fondateur, avec sa veste en cuir, comme à chaque fois, qui venait présenter son nouveau bébé. C'est ça que tout le monde attendait, sa nouvelle génération de puces, de GPU, comme on appelle ça. Alors, elle est appelée Blackwell, celle-ci. Les GPU, pour rappeler, hein, c'est la brique de base de l'intelligence artificielle. C'est ce qui permet d'entraîner les modèles de langage, par exemple. C'est ce qui permet de les faire tourner aussi. Quand on utilise ChatGPT au quotidien, eh bien, ça passe par un GPU NVIDIA. Et là, on a la nouvelle génération qui arrive. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est une nouvelle architecture.
Ça va vite.
Qui permet d'aller, voilà, exactement, beaucoup plus vite, 4 fois plus vite. Et d'être 25 fois plus efficace d'un point de vue énergétique, ce qui est un très gros enjeu. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est très gourmand en énergie. Les usages sont exponentiels. Et donc, évidemment, on va avoir besoin de puces moins énergivores. Ça va venir remplacer ou succéder à la H100. C'est la star du secteur en ce moment. On a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est des composants qui coûtent 40 000 dollars pièce et que toutes les entreprises s'arrachent, à tel point qu'NVIDIA peut se payer le luxe de choisir ses clients aujourd'hui. Ça va probablement être exactement la même chose avec cette nouvelle génération.
Voilà, une super puce à l'occasion d'un super événement, tout ça dirigé de main de maître par un super PDG, tout va bien chez NVIDIA. Et à noter que la semaine prochaine, mardi prochain, je recevrai Serge Palaric, qui est le vice-président IMEA chez NVIDIA. Il viendra nous présenter en fait toutes ces nouveautés qui sont nombreuses.
Pour l'anecdote, Jensen Huang est allé dans le restaurant où il faisait la plonge, qui était vous savez, vous connaissez ces franchises, ça s'appelle les Denny's là aux États-Unis.
Voilà, les trucs de les burgers.
Un peu très entrée de gamme. Ouais. Et il était plongeur dans ses restaurants. Et c'est là où il a eu l'idée un peu. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Il se disait, mais tiens, comment améliorer la puce Et là, il est retourné pour fêter les 40 ans les 30 ans de l'entreprise. Il est retourné sur ce Denny's. Il a laissé 1000 dollars de pourboire à tous les salariés. Donc c'était assez. Enfin voilà, c'était pour une petite anecdote autour de Jensen Huang, qui, parce que je faisais un peu le rapprochement, Steve Jobs n'avait pas donné 1000 dollars à tout le monde, mais voilà, qui devient une vraie personnalité. Oui. Voilà, on on va.
C'est vrai, il sort du. J'allais dire, il sort du bois parce que. Enfin, nous, spécialistes de la tech, on l'a repéré il y a quelques années. Oui. Parce que c'est vrai qu'il est passé du jeu vidéo à l'automobile. Hein. Il a eu très tôt. Il a pris le virage, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots, de l'automobile. Le minage de crypto-monnaie, il y a quelques années de cela. Et là, maintenant, l'intelligence artificielle. Belle boîte,
en fait, il a pas changé, il a toujours fait pareil. Il a fait toujours les mêmes GPU et ce sont ces secteurs qui sont venus chez lui. Hein. Il n'a pas changé d'activité, Nvidia, Jensen Huang, c'est toujours ces mêmes GPU qu'il améliore. Donc là, c'est une amélioration. Donc Anthony l'a bien dit, 4 fois plus puissant, 4 fois moins gourmand en énergie. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant au-delà du produit, c'est l'événement. C'est de voir que c'est un produit que personne va acheter. Hein. Moi, je ne serai pas client d'Nvidia, personne autour de cette table non plus. Mais c'est de voir que il fait une keynote comme Steve Jobs les faisait à l'époque, devant encore plus de monde. Il y avait des milliers dans la salle. Il y avait des entreprises, il y avait tous les géants de la tech, il y avait L'Oréal, il y avait Jaguar. Enfin voilà, c'est devenu. Prenez une entreprise, multipliez son cours de bourse par 10 en un an et demi. Hein. C'est 2 200 milliards de dollars le cours de bourse d'Nvidia. Mettez cette technologie-là au cœur de ce qu'on présente comme la révolution technologique du moment et voir la révolution de l'économie mondiale, eh bien vous obtenez ce phénomène-là, même si c'est vrai que le grand public, les gens qui nous écoutent, Nvidia, c'est dans le capot, c'est sous le capot, on ne le voit pas.
Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des comparaisons. Il serait possible en fait d'entraîner les derniers modèles d'IA en utilisant 2000 puces de type Blackwell, donc c'est la nouvelle puce, pendant 90 jours et en consommant 4 mégawatts d'énergie. Et avec les puces H100, qui sont donc les puces actuelles, cet apprentissage nécessiterait 8000 puces et 15 mégawatts. Donc on se rend compte là, concrètement, de l'avancée technologique de cette nouvelle puce. Yves ?
Moi, je suis. C'est assez fascinant l'accélération qui est en train de se passer. Et c'est pas par hasard que Nvidia arrive où il est. D'abord, il y a énormément de travail, énormément d'investissement, énormément de risques. Il a, comme tu le mentionnais, Frédéric, fait plusieurs choses, entre autres les cartes graphiques pour les jeux. Il faut savoir qu'il est taïwanais. Taïwan, c'est quand même là où il y a eu tous les ordinateurs pour jeux. C'est là où il y a TSMC. Donc, il y a vraiment un écosystème. Moi, qui ai vécu et travaillé à Taïwan, je pense que je suis assez bien placé pour parler de ça. Donc, il fait partie de cet écosystème. Il fait partie de cette famille-là. Et il est doué. Bon, maintenant... Ce qui est remarquable aussi, c'est que par-delà la puce, il a fait un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des développeurs, il y a des programmes, il y a des clients.
Oui, ils ont présenté beaucoup de grosses plateformes logicielles hier.
Et en fait, même s'il a un concurrent qui demain va faire le même type de chipset, qui va copier ce qu'il fait, eh bien, le concurrent, il n'a pas cet écosystème. Donc, il est dans une situation.
Oui, de monopole, quasi.
Alors, quasiment de monopole. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose...
Ce qui est fou, c'est qu'il laisse sur le bas-côté Intel.
On voit à la télé la taille. Parce que pour faire des chipsets de cette taille-là, c'est le maximum de taille qu'on sait faire. Et alors, évidemment, il y a beaucoup de processeurs, mais c'est... Je vous assure que c'est incroyable de faire ça d'un point de vue industriel.
Parce que là, c'est gravé en quelle finesse
Je pense qu'il est en 3 nanos.
En 3 nanos, vous vous rendez compte? Parce que c'est une grosse puce avec du 3 nanos...
Et ce qu'il y a de fou par-delà ça, c'est l'avancée de la technologie américaine. Quand on voit ça, alors là, on dit, le reste du monde, la totalité du reste du monde a complètement décroché. Et là, les États-Unis, tout d'un coup, avec ça, plus avec ce qu'a annoncé Sam Altman en Corée de GPT-5 hier, parce qu'ils travaillent ensemble, ils sont sans arrêt fourrés ensemble, hein, ils sont à quelques kilomètres l'un de l'autre à vol d'oiseau.
Rappelle-nous ce qu'a dit Sam Altman justement en Corée concernant la différence de puissance entre ChatGPT-4 et la version 5.
Alors c'était cette nuit pour nous, parce qu'il y avait un décalage. Il était dans une petite salle, c'est rigolo de regarder ça. Il y avait quelques personnes, puis il interviewait, donc on voit quelqu'un au micro, et puis il y a une trentaine de mecs enfin, qui sont là un peu avachis sur des canapés, etc. Et il lui pose la question, alors c'est quoi ton nouveau truc, quoi? Et il dit, on va sortir ChatGPT-5. Et donc il y a un petit débat, et il explique un truc, et il dit la différence entre GPT-4 et GPT-5, c'est la même différence qu'entre GPT-3 et GPT-4. Alors, ça ne dit pas grand-chose, sauf que GPT-3, c'était vraiment la préhistoire. 3,5.
C'était la grosse claque.
Celui qu'on a connu.
Qui était lancé en novembre 2022.
Ah ouais. Et 4, on a dit « ah ouais, ouais ». Alors là, je ne sais pas ce qu'on va dire, quoi. Parce que s'il y a le même écart entre 4 et 5 qu'il y a entre 3 et 4...
Ouais, ça va être violent.
Ah, et pour faire cet écart-là, il faut des puissances de calcul. C'est et clair. Comme par hasard, ils disent les choses le même jour ou à quelques heures d'intervalle. Aux deux bouts du monde.
Il n'a pas laissé entendre quand pourrait arriver ChatGPT-5.
Alors, ils lui ont posé la question. Il a dit qu'il ne savait pas, parce que je pense que c'est compliqué, parce qu'il faut
bien sûr.
Pas faire n'importe quoi.
Et je pense que depuis, depuis les mésaventures au bord d'OpenAI, il doit vraiment réfléchir avant de parler, je pense, avant de dire des bêtises.
Mais il annonce déjà le 5. Allez, tout le monde sait que ce n'est pas dans 2 ans. Ce sera entre maintenant et peut-être 12 mois. Voilà. Mais on ne peut pas faire une annonce quand on est CEO d'une boîte comme ça à 24 mois. Ça n'existe pas. Donc, ça donne des ordres d'idées. C'est probablement pas à 15 jours, sinon il l'aurait dit. Mais voilà, on est dans, je dirais qu'entre 6 et 12 mois, il ne faudrait pas être surpris de le voir annoncer.
Une bonne communication, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, c'est une bonne communication. Non, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut regarder par rapport à Nvidia aussi, c'est comment tout ça va évoluer. Parce que les autres concurrents, les AMD, Intel, ils ne vont pas rester non plus à regarder le trapassé. Ils sont en train de travailler sur des choses. Alors, peut-être moins, c'est-à-dire que Nvidia, comme l'a dit Fred, Nvidia est resté sur une technologie de matriciel, calcul vectoriel. Alors là, grâce au logiciel, ils ont réussi à réduire, à augmenter la performance et à réduire, alors un peu de matériel évidemment, mais c'est une très très grosse boîte de logiciels aussi. Il faut le voir. D'ailleurs, ils ont sorti une plateforme logicielle pour donner encore plus d'intelligence aux robots. Mais maintenant, et c'est pour ça qu'on a vu Sam Altman, pour le reciter, qui est en train de chercher des milliards, des milliers de milliards pour investir dans les nouvelles puces. Il y a certains qui se disent, ben oui, mais on commence à voir vraiment même des clients entreprises qui disent, moi je vais prendre du Gemini avec la puce Google, moi je vais prendre du Gemini avec, tiens, je vais prendre moi du Nvidia. Et donc certains se disent, tiens, on a peut-être des domaines où on n'aura pas besoin d'un tel type de puce à 40 000 $ qui consomme.
Et donc là, Intel ou AMD peuvent avoir leur mot à dire.
AMD peuvent avoir des puces beaucoup plus spécifiques,
ou Qualcomm,
qui sont dédiées à l'IA, parce que là on l'a dit, on est parti
même Qualcomm, finalement.
Parce qu'on s'est rendu compte que le jeu vidéo demandait, notamment pour avoir une qualité d'image, demandait plein de calculs, que ces puces étaient très importantes, enfin étaient compatibles justement avec ce qu'on recherchait en IA. Mais maintenant, si on refait un peu son modèle de pensée et qu'on commence à développer, à se dire, tiens, pour l'IA, j'ai besoin de ça, et bien voilà le type d'architecture de puce, on va peut-être avoir une nouvelle génération. Et donc, Nvidia est quand même très prudent. Alors, ils doivent aussi avoir dans leur labo, ils imaginent des choses, mais je pense que la bataille 2024-2025, ça va être assez intéressant de voir si Nvidia va garder cette suprématie. Certains commencent à en douter en disant, voilà, on a quelques signaux faibles comme quoi
après Nvidia va se retourner. À une telle avance, on sait que dans ce secteur des technologies du numérique, il y a toujours une primo leader, et aujourd'hui l'archi leader est Nvidia. Alors oui, ça ne veut pas dire que de toute éternité Nvidia dominera le marché, mais aujourd'hui Nvidia, il se présente comme ce qu'a dit le PDG Wang, comme le fondeur de l'IA. Il se présente un petit peu comme le TSMC de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'Nvidia ne fabrique pas ses puces, il est fait fondre par des fondeurs. Mais lui, il dit, moi, je suis le fondeur de l'IA, c'est-à-dire je fabrique les briques de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est incontournable.
Il me rappelle Cisco. Tu sais, Cisco disait, nous, on a 80%. Mmh. À une époque, Cisco, c'était 80% des routeurs. Internet, tout Internet fonctionnait à 80% grâce à des routeurs Cisco. Aujourd'hui, Cisco, ils viennent de sortir 28 milliards pour acheter Splunk, mais ils n'ont plus cette suprématie. Donc il faut. J'espère qu'ils seront tirés les leçons pour garder cette avancée.
Mais on voit d'autres choses arriver. Là, c'est des chipsets. Donc on voit, c'est monolithique. C'est la même chose. C'est des gros GPU. GPU, c'est au départ, c'était pour faire du graphique. G comme graphique. Okay. Et on voit maintenant quelque chose qu'on appelle des chiplets. Okay. Et ce sont des architectures un peu différentes, où ce sont des chipsets répartis qui parlent entre eux avec un espèce de cœur, on va dire, des GPU qui se parleraient entre eux avec des cœurs. Donc, et là, AMD a fait le pari du chiplet. Donc je pense que on va avoir une compétition. On voit par exemple une société comme Blue Ocean qui se met à faire des chiplets et qui commence. AMD fait des chiplets. Au départ, Nvidia a dit on n'y croit pas du tout. Et il y a une petite année, discrètement, ils ont dit qu'ils allaient se mettre à faire du chiplet. Mais le pionnier dans le chiplet, c'est AMD. Et je pense que dans 3-4 ans, il va y avoir une vraie compétition sur les serveurs AI, entre des chipsets et des chiplets.
Et donc AMD pourrait revenir sur le devant de la scène avec...
Je crois que d'ailleurs, il suffit de regarder le cours d'action d'AMD.
Et puis surtout avec SoftBank qui est en train de remettre de l'argent aux pauvres. Rappelez, SoftBank voulait à un moment revendre AMD à Nvidia. Juste un mot, Yves, toi.
Et après, on enchaîne sur Apple.
Ouais, toi qui connais bien cet univers, tout le contexte géopolitique. On n'en parle pas beaucoup, pourtant on sait que quand on voit ce qui se passe en Ukraine, se dit Taïwan, bon, c'est protégé tout ça, mais est-ce que là, il y a quelque chose qui pourrait un jour jouer parce qu'il faut quand même rappeler que tout ça est fondu
à Taïwan.
Donc,
TSMC, Mais évidemment, il s'avère qu'à l'endroit où j'habitais à Taïwan, à littéralement 50 ou 60 mètres de chez moi, habitait le fondateur de TSMC. Bon, sa maison était un peu plus grande
que la tienne.
Et puis lui, il y avait beaucoup de gardiens. Oui, je pense que Taïwan, c'est le cœur. C'est sûr qu'il y a un enjeu. Les Chinois travaillent plus sur le chiplet parce qu'ils savent que sur le chipset, ils sont largués. Mmh. Les Américains ont décidé de faire des usines, ont demandé à TSMC de faire des usines aux États-Unis, c'est-à-dire ils se préparent. Bon, maintenant, le jour où les Chinois vont envahir Taïwan, s'ils l'envahissent un jour, s'ils devaient l'envahir un jour, je pense qu'il faudrait être fou pour détruire TSMC, quoi. C'est la poule aux œufs d'or.
Bien sûr.
Et de toute façon, il y a tous les ingénieurs resteraient là. Donc, c'est vrai que c'est une vraie interrogation géopolitique. Ouais.
Oui, c'est vrai. Et on ne sait pas du tout comment tout ça va évoluer. Hein.
C'est
vraiment, c'est une grande interrogation.
C'est l'histoire entre Asiatiques.
Ouais. 20h50. Il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on évoque aussi ce gros titre d'actualité que tu as évoqué déjà hier, hein,
oui,
Fred,
hein,
puisque
peu,
tu étais à la présentation de Tech & Co, c'est Apple. Alors, vous savez qu'Apple est en train de préparer son iPhone 16, qui sortira à la rentrée, et avec l'iPhone 16, iOS 18, qui est le nouveau système d'exploitation qui est mis à jour chaque année. Depuis un moment, on nous dit que ce système d'exploitation mettra vraiment en avant l'intelligence artificielle. Le seul truc, c'est que Bloomberg aurait eu des informations comme quoi Apple sera en train de négocier avec Google pour intégrer Gemini, en fait, donc le ChatGPT de Google, hein, pour faire clair, pour que tout le monde comprenne, dans l'iPhone. Et là, c'est quand même une sacrée news. Tu l'as commenté hier, je pense qu'il faut y revenir aujourd'hui. J'aimerais avoir ton avis, Yves, et aussi Fred, là-dessus, parce que c'est aussi un petit constat d'échec pour Apple, qui, s'il est obligé de faire appel à Google, c'est qu'il n'est pas prêt pour avoir sa propre solution maison en termes d'intelligence artificielle, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et après, Fred.
Oui, c'est une surprise et c'est pas une bonne surprise pour les fans d'Apple, parce que, comme tu le dis, c'est quand même un constat d'échec.
C'est une rumeur, hein, pour l'instant. Hein, attention.
C'est une rumeur. Bon, ce qui est sûr, c'est que tous les gros ont tous eu une solution, sauf Apple. Apple a fait le pari de garder, hein, c'est toujours de garder les données personnelles sur le téléphone. Et donc, il a fait le pari d'avoir des chipsets, hein, d'avoir ces petites puces qui vont permettre à l'intelligence artificielle de travailler sans sortir du téléphone, okay, pour garder les données dans la poche du consommateur et lui garantir qu'elle sort pas. Sauf que pour faire ça, c'est un pari qui est très osé. Et aujourd'hui, il semble que l'ensemble du software et de ces puces de chez Apple ne soit pas au niveau, en tout cas, pour être par rapport à la compétition. Donc, ils sont très probablement... Ils vont y arriver, ils vont y aller, ils travaillent. Mais en attendant, soit ils continuent à prendre du retard, soit ils sont obligés de partir avec un autre partenaire. Mmh. Et comme ils travaillent déjà avec Google, ils partent avec Google. Alors après, ça pose beaucoup de questions sur le droit à la concurrence, sur etc., etc. Mais je pense que le pari d'Apple reste de faire de l'intelligence artificielle qu'on appelle « on edge », c'est-à-dire sur le smartphone, pour garder les données utilisateurs sur le smartphone. Alors que si l'intelligence artificielle est fait dans le cloud, évidemment, les données, à un moment, sortent. Et quand elles sortent, elles sont plus vulnérables.
Mmh. Ben, c'est un petit peu le c'est, Apple s'est enferré là-dedans, finalement, dans cette communication. Chez nous, vos données sont protégées. On voit ces pubs où l'iPhone se retourne et où on a un cadenas. Donc, finalement, Tim Cook s'est retrouvé coincé dans sa communication.
Cadenassé.
En disant, voilà, hein, il s'est, exactement. Parfois, bravo Yves Maître. Bravo. Tim Cook s'est un peu pied et poing lié par sa communication en disant, ben, chez nous, notre écosystème est le plus sûr. Donc, il faut que tout soit dans le téléphone. Ensuite, moi, l'accent que je voudrais mettre, c'est quel rendez-vous manqué quand même de la part d'Apple. Apple, ils arrivent en 2011 avec un assistant personnel Siri qui aurait pu être la base de départ de justement une intelligence artificielle générative. Ils auraient pu mettre énormément de moyens là-dedans, investir là-dedans. Apple a quand même d'autres moyens que ce qu'a pu avoir OpenAI depuis quelques années. Apple aurait pu mettre le paquet là-dessus. Ils l'ont pas fait. Ils se retrouvent aujourd'hui avec un modèle, avec un langage Ajax qui, semble-t-il, est pas prêt. Ils vont taper à la porte de Google et peut-être d'autres. Hein. On dit Google, mais apparemment, ils sont allés voir Mistral aussi.
OpenAI.
OpenAI. Et pour vite essayer de rattraper ce qui peut l'être, moi, je trouve que est-ce qu'on n'atteint pas un peu les limites du management de Tim Cook qui n'a pas su
juste une chose.
Investir Attends. Et mettre ses œufs où il fallait.
Juste une chose, entre Apple et Google, il y a des relations, on va dire, cordiales la plupart du temps. Hein. Il faut savoir que le moteur de recherche dans Safari, c'est Google. Et je crois que Google donne des milliards et des milliards à Apple chaque fois. Rappelons que le premier iPhone, la première appli sur l'iPhone que Steve Jobs avait présenté, il y avait YouTube. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, c'était déjà un service Google. On voit qu'il y a enfin, ça, c'est des concurrents sur plein de choses, mais c'est aussi des partenaires. Et finalement, là, peut-être que Tim Cook se dit, mon partenaire de l'IA, pourquoi pas Google, quoi, finalement.
J'ai une théorie aussi là-dessus. Alors, au-delà de tout ce que vous dites, ce qui est parfaitement juste, c'est qu'on ne regarde pas assez les hommes. Et je pense que les cerveaux de l'IA, ils sont pas chez Apple. Et c'est le gros souci. Les cerveaux de l'IA, ils sont chez Google, ils sont chez OpenAI. Il n'y en a pas des milliers. Je fais souvent l'analogie.
Apple a un trésor de guerre de près de 200 milliards.
Mais oui, mais il faut avoir envie d'aller chez Apple.
Il faut avoir envie. Donc c'est un problème de stratégie d'entreprise. Et donc,
c'est comme le foot. Hein. Le foot, t'es un super joueur de foot. On va te dire, tiens, mais tu vas te payer 10 fois plus. Tu vas aller jouer en Arabie Saoudite parce qu'ils vont te payer 10 fois plus. Dis oui, mais moi, la compétition, elle est en Europe parce qu'il y a le Barcelone, parce qu'il y a le Madrid, parce qu'il y a le PSG, etc. Et je pense que dans l'IA, moi, je suis en train de monter ça, je suis en train d'essayer de repérer un peu les 200 personnes qui comptent dans l'IA et d'essayer d'un peu de voir. Alors parmi ces 200 personnes, on dit qu'il y en a 70-80 qui sont vraiment les gros cerveaux, et à mon avis il n'y en a pas beaucoup chez Apple, et c'est ça le gros souci. Il y en a beaucoup dans les startups, il y en a beaucoup évidemment chez Google, OpenAI, voire même chez Amazon, chez Microsoft, etc. Et je pense qu'ils ont un vrai souci d'avoir le Johnny Ive de l'IA. Enfin, c'est l'une de mes hypothèses.
Quand il a fallu dépenser par exemple dans l'automobile, ils ont su aller chercher les experts, ils ont su mettre les milliards sur la table pour au final se planter. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre ces milliards là et débaucher des experts de l'IA plutôt que courir après ces...
Après de l'IA, il y en a déjà dans l'iPhone. Après de l'IA, il y en a déjà dans l'iPhone.
Il y en avait déjà, mais ils n'ont pas aujourd'hui de l'IA générative.
Là, on parle d'IA générative, on est d'accord. Hein. C'est le fait de rendre Siri moins bête.
Il y a quand même une interrogation sur Apple. C'est la plus grosse capitalisation mondiale. Ils ont annoncé, dans les 12 derniers mois, pas de téléphone pliable, ok.
Après, les avis divergent là, visiblement. Il y a des rumeurs.
Aujourd'hui, il y en a pas. Samsung en a, Honor en a, Xiaomi en a, tout le monde en a. Huawei en a, pas eux. C'est les seuls qui n'en ont pas, quand même. La voiture, ils annoncent qu'ils arrêtent. Le dernier iPhone, les nouveautés, faut un peu les chercher.
Casque très...
Ils innovent avec le Vision Pro, on n'a pas le temps d'en parler parce que le timing...
Le Vision Pro, c'est une innovation.
Quand même.
Pour le moment, on ne savait pas si c'était un top ou un flop. Pour le moment, on n'est pas sûr que ce soit du tout un top. Alors, on verra les générations à venir.
C'est dans des années qu'on s'en rendra compte.
On s'en rendra compte, mais ce que je veux dire, c'est que quand Tim Cook a annoncé, il l'a annoncé publiquement, qu'il était temps de prendre la retraite. Donc, je pense qu'il y a une attente et il y a un besoin. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il a dit, il faut que je prenne ma retraite. Donc, quand quelqu'un dit, il faut que je prenne ma retraite, c'est pas dans 15 ans, ok ? Sinon, il le dirait pas. Ça veut dire que c'est dans quelques années.
Bon.
Ça veut dire que Apple va devoir changer, et à un moment de changement, et il faut qu'il change.
On reviendra évidemment sur ce sujet parce qu'il est toujours très intéressant de
on pourrait faire une soirée un peu spéciale Apple en panne d'innovation.
Ouais, en panne d'innovation. En effet, on invite Tim Cook, tiens, pour voir s'il pourrait venir nous en parler. Juste une info, on va avoir une VP de chez Apple bientôt. Mi-avril, on aura la VP Santé Monde qui sera sur le plateau de Tech & Co. Pendant une demi-heure, vous savez que, alors, s'il y a plein de choses qui marchotent chez Apple et d'autres qui marchent très très bien, ouais, l'Apple Watch marche très bien. Et en fait, tout ce qui sont, la stratégie santé qui sont en train de dérouler est passionnante.
C'est la santé, oui.
Ouais, et on en parlera donc avec la VIP santé qui sera avec nous.
Le développement durable, ce sont deux des gros succès d'Apple en ce moment.
Exactement. Et puis l'iPhone, il ne faut pas oublier qu'attendez quand même, c'est un téléphone, enfin, c'est le téléphone le plus vendu au monde. Malgré tout, et qui commence à millions.
C'est vrai qu'il y a moins d'excitation, on a déjà parlé, parce qu'il y a moins d'innovation dans tout le secteur. On va parler de la santé de l'innovation chez Apple.
Ouais, là, c'est ça. La boucle est bouclée. Merci beaucoup Yves. Yves Maître était avec nous ce soir. Merci à Fred Bianchi.
Merci à tous.
Et merci à Fred Simotel, qu'on retrouve demain.
Et on va écouter du quantique tout de suite.
Oui, on va parler quantique avec nos invités, justement au sommaire de Tech & Co pour notre deuxième partie. OVH Cloud qui inaugure donc en grande pompe avec évidemment des politiques qui ont fait le déplacement, son ordi quantique avec Candela. On en parle dans quelques instants avec les principaux intéressés. Et puis, on s'intéressera aussi à un livre sur la révolution Tesla. Tesla a tué la bagnole. Franck Cazenave, qui est l'auteur de ce livre, sera avec nous. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, revient dans un instant. On va parler quantique avec nos invités. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Voilà, avant de parler de la révolution Tesla, on va parler de la révolution quantique avec nos deux invités. Michel Paulin est avec nous. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Directeur général d'OVH Cloud, la pépite du cloud française. Voilà, le numéro un européen du cloud. On peut le dire, il faut le dire et le répéter. Et le numéro un européen du cloud est français, même si bien sûr il y a de puissants, on va dire, concurrents américains, mais le numéro un européen du cloud, il est français. Et c'est OVH Cloud. Et Nicolo Somas qui est avec nous. Bonsoir Nicolo.
Bonsoir.
Cofondateur et directeur général de Candela. Candela qui, en fait, fabrique des ordinateurs quantiques, c'est ça votre métier ?
Oui, exactement.
Voilà. On a des pépites dans ce domaine en France. On a Candela, on a Pascal aussi. Alice et Bob.
C12. Eviden.
C'est incroyable, cette effervescence dans le quantique. Parce que c'est vrai que de temps en temps, et Michel, je vais vous donner la parole sur ce sujet, on dit qu'on a raté le virage des grands hyperscalers du cloud américain. On dit qu'on a raté le virage de la puce, du processeur. Mais là, on a devant nous deux voies qui sont intéressantes. C'est l'intelligence artificielle, où on a vraiment des talents français, et puis le quantique.
Tout à fait. Moi, je pense aujourd'hui, je vais paraphraser ce qu'a dit Octave Klaba, qui dit que le 20e
siècle. C'est le fondateur
de VH Cloud. Le 20e siècle était atomique, le 21e siècle va être quantique. Donc, je pense que nous sommes à l'aube d'une révolution qui est incarnée par Candela, mais également par l'ensemble de toutes ces jeunes pousses que l'on évoque, et pour lesquelles, très certainement, l'informatique dans 5 à 10 ans sera totalement différente, et dans lequel le quantique aura une part importante sur un certain nombre d'usages. Et donc, il faut s'y préparer. Et la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que, en France, nous avons, parce qu'on a un cursus, et dans d'autres pays européens, on a des cursus universitaires et de grandes écoles qui permettent d'avoir des grands talents qui sont aujourd'hui, qui ont fait qu'on a des prix Nobel, des prix Nobel quantiques. C'est un Français, le dernier qu'il a eu. Et donc, oui, on a aujourd'hui des pépites qui sont à l'aube d'une révolution. Et je pense qu'il est important d'aider ces pépites le plus en amont possible pour faire en sorte qu'elles puissent se développer dans un modèle économique et d'innovation qui soit vertueux pour qu'elles puissent être les Nvidia-like, comment dire, du quantique.
Oui, Alain Aspect, bien sûr, qui est
bien sûr, Alain Aspect,
notre
tout à fait.
Modèle dans ce domaine. Nicolo, est-ce que vous pouvez nous présenter Candela,
oui,
s'il vous plaît?
Candela, c'est une société qui a été créée en 2017, qui fabrique et développe des solutions de calcul quantique. Avec des technologies qui sont prêtes à l'industrialisation. Donc, on maîtrise les semi-conducteurs, on maîtrise la photonique, et c'est au cœur de l'Internet, de la télécommunication. Et l'objectif, c'est de créer des ordinateurs qui sont utiles pour aider les organisations, les industriels, la société, à développer leur transformation digitale. Nous, on l'appelle la transformation quantique.
Alors, parce que les ordinateurs, on connaît ça depuis quelques années, j'en ai un sur le plateau, on en a tous, ça c'est un ordi, finalement.
Oui.
En quoi le quantique est en train de révolutionner, en fait, ce type d'appareil que nous avons aujourd'hui? C'est assez abstrait en fait à comprendre, mais on évoque des puissances de calcul qui pourraient être démultipliées, qui pourraient être exponentielles. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu dans les détails et expliquer quels sont les secteurs qui pourraient être bouleversés justement par l'informatique quantique ?
Oui, alors les grands potentiels du quantique, c'est pas seulement d'augmenter la puissance des calculs, mais de résoudre des applications, des calculs qui aujourd'hui ne sont pas atteignables avec les processeurs classiques, qu'ils soient les CPU ou les GPU.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteignables, pourquoi ? Parce qu'il y a trop de calculs et on ne peut même pas imaginer qu'on arriverait au bout, c'est ça ?
Parce qu'il faut prendre des dizaines, des milliers d'années et parce que des fois, ce sont des systèmes qui sont quantiques, comme la constitution des molécules. Et donc, ça devient plus efficace de les modéliser avec des processeurs qui sont quantiques.
D'accord. Quels sont les secteurs donc justement qui pourraient être bouleversés ? La santé ?
Santé, logistique, énergie. Donc l'énergie, c'est un des cœurs.
Et la sécurité.
Et sécurité.
Crypto, on va en parler aussi bien sûr, parce que je crois que Mosaïque va être là aussi pour crypter plein de choses, mais on va en parler dans quelques instants. Est-ce que demain mon ordinateur sera quantique ? Ça n'a pas de sens en fait que notre PC devienne quantique ?
Pas trop, mais c'est très important de comprendre que le quantique, c'est pas là pour remplacer les calculateurs classiques. C'est là pour aider et travailler comme dans des data centers, on a différents processeurs. Le quantique va être à côté des autres pour développer des calculs qui, pour l'utilisateur, ne soient pas non plus visibles. Donc l'idée, c'est de permettre à un industriel de lancer leur simulation et l'algorithme, il est partagé sur différents processeurs pour optimiser les calculs.
Michel, pourquoi miser sur le quantique ? Après, on parlera de Mosaïque hein, et de ce que vous avez inauguré aujourd'hui, mais pourquoi miser sur le quantique ?
Alors, on mise sur le quantique, quand je dis miser, c'est plutôt, on a une certitude, nous. La certitude aujourd'hui. Alors,
dans là, vous investissez. Alors,
on a acheté un ordinateur.
Vous avez déjà des investissements, mais là, vous achetez cet ordinateur.
On achète cet ordinateur, parce qu'on a la conviction, comme le disait Nicolas, que dans le futur, à 5 ans, 10 ans, le monde informatique sera hybride, dans lequel vous aurez du quantique, vous aurez des GPU, vous aurez des CPU qui seront adaptés à chacun des types d'usages. Et que donc, il faut l'anticiper. Et nous nous préparons à ce type d'innovation. Aujourd'hui, OVH Cloud a toujours essayé d'être vraiment à la frontière de l'innovation et de toujours le pouvoir l'anticiper. Et on a la chance d'avoir un écosystème français et européen qui est justement vraiment au top niveau. Et donc, à ce titre, on veut aussi nous aider cet écosystème. Pourquoi on achète aussi un ordinateur quantique ? C'est parce que nous, on va l'utiliser. On va l'utiliser pour nos moyens. Et en particulier, on va générer des nombres aléatoires grâce à l'ordinateur quantique, alors que les ordinateurs classiques ne savent pas générer des vrais nombres aléatoires, en particulier pour les systèmes d'encryption. Mais également, c'est un moyen de faire participer l'écosystème à un développement, parce qu'on sait bien que tout ça, c'est un mécanisme vertueux. Donc, on a une double mission. C'est une mission aujourd'hui, entre guillemets, de nous préparer, mais également de préparer l'écosystème. Et je terminerai par aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est on va faire en sorte que les instances quantiques proposées sur Mosaïque de Candela seront gratuites pour les étudiants des universités et des grandes écoles. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui aussi préparer les utilisateurs. Quand je dis utilisateurs, c'est des codeurs. Et le coder aujourd'hui dans les interfaces, les émulateurs et les simulateurs quantiques, c'est un petit peu différent que de coder sur le monde informatique. Donc, il y a tout un apprentissage. Oui. Il faut revoir d'une certaine façon
en fait,
tout l'enseignement.
Si j'ai bien compris, alors c'est pas péjoratif, mais c'est un peu un bac à sable cet ordinateur finalement. Voir un peu comment de jeunes ingénieurs peuvent appréhender cette technologie pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que on le disait c'est une révolution par rapport à l'informatique traditionnelle. On est d'accord.
Oui, on est d'accord. Aussi sur l'ingénierie, il faut développer des processus, il faut développer des composants, des modules. Donc, une chose importante, l'ordinateur est modulaire pour permettre d'upgrader leur puissance de calcul, mais on y travaille depuis la science, depuis les dispositifs qui sont les moteurs de ces machines qui ont été très contents de livrer.
Exactement. Et pour revenir sur la question, je pense qu'il faut comprendre que, on le voit bien, la force d'un écosystème, c'est la capacité à anticiper et de faire en sorte qu'on soit capable de financer cet écosystème. Et l'écosystème du quantique français a besoin d'être aidé dans le financement pour pouvoir le faire. Alors, Candela a réussi à le faire, les autres entreprises, mais on est au début de l'histoire. Mais aussi, il faut créer l'écosystème qui est autour d'applications, de compétences, tout l'enjeu, on le voit bien sur l'IA, c'est pas uniquement d'avoir le LLM. Il faut avoir la puissance de calcul, il faut avoir la capacité de stockage, il faut avoir les compétences aujourd'hui
pour pouvoir le faire.
Les ingénieurs. Ouais. Et donc, je pense que notre ambition en investissant dans cet ordinateur quantique, c'est justement d'essayer de faire en sorte que nous puissions, dès à présent, établir en France, et on était très fiers d'avoir aussi des ministres allemands, la ministre allemande de la recherche et de l'enseignement, et européen, pour créer cet écosystème vertueux qui va faire en sorte que la France va pouvoir, au sein de l'Europe et avec l'Europe, rester dans la course, parce qu'il va y avoir des moyens considérables qui vont être investis dans le quantique. C'est déjà le cas. Et il va falloir aussi participer à cette émulation collective et développer des compétences pour qu'on soit capable de relever le défi de l'innovation, mais également du business model. Parce qu'à la fin, tout ça, ça va être aussi une capacité de créer des champions.
Comment on se situe par rapport aux Américains ou même les Asiatiques dans le calcul quantique, dans l'informatique quantique? On est bien positionné, on est bon par rapport à eux.
On est très forte en France et je pense qu'en Europe, la France est un exemple, parce qu'il n'existe pas un autre pays où il y a 5 acteurs sur 5 plateformes. Bien sûr, il faut rattraper un peu sur les moyens de financement privés, mais on a l'aide de l'État, l'aide européenne.
Il y a le France 2030 aussi.
Il y a l'aide de l'État, il y a aussi des levées de fonds qui ont été faites dans ces 5. Parce que, peut-être pour dire à Nicolas, c'est qu'aujourd'hui, il y a 5 technologies qui sont maîtrisées par les start-up françaises. Là, on a parlé de la photonique et qu'on est là. Alors, on sait son nom en plus. Aussi, il y a des ions lourds, des atomes lourds, il y a du carbone, C12 par exemple, c'est du carbone. Donc, la chance que nous avons chez la France, c'est qu'aujourd'hui, on a une typologie, plusieurs pistes et certainement, peut-être que le quantique, d'ailleurs, sera sur plusieurs technologies qui vivront ensemble et qui seront adaptées à chacun des typologies d'usage.
Et peut-être même d'autres qui seront abandonnées aussi.
Peut-être aussi, donc je ne le souhaite pas pour toutes les start-up, mais c'est clair qu'aujourd'hui, en tout cas, la chance qu'a aujourd'hui la France, c'est qu'elle maîtrise beaucoup de technologies. C'est assez rare, parce que même aux États-Unis, on n'a pas toutes ces technologies.
On n'a pas toutes ces technologies, on n'a pas non plus la possibilité de développer la supply chain, les process de fabrication ici, en Europe. Et l'Europe nous soutient, la France nous soutient, parce que la chaîne d'approvisionnement, la souveraineté, c'est un enjeu majeur. Et c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir une machine qui est fabriquée en Europe.
Et là, vous avez livré votre premier ordinateur quantique à OVH Cloud, c'est votre premier ?
C'est le premier livré d'un data center externe. Oui. On a une machine qui tourne sous les clouds, donc c'est la production interne. Oui. Et tourne sous les clouds disponible depuis fin 2022, début 2023. Et c'est aussi un premier européen. Donc, on prépare la livraison des autres 3 machines cette année. On veut augmenter en puissance sur la chaîne de production avec, bien sûr, le développement des générations de machines plus puissantes.
Oui, parce que le repère, c'est le qubit, je crois, c'est ça, l'étalon, enfin l'unité de puissance, en fait, de cette puissance quantique. Vous avez combien de qubits, là, avec le mosaïque?
Dans la plateforme de calcul cloud, on est sur 10. Oui. On va lancer la machine à 12 et on va passer en 2025 sur une machine de production avec dizaines de qubits pour avoir justement la possibilité de les mettre à disposition dans des centres de calcul.
OVH Cloud est votre premier client. Vous dites que vous êtes en train de préparer d'autres machines. Quels sont les prochains, en fait? Qui va vous acheter aussi vos ordinateurs quantiques?
On a livré une machine à Sherbrooke, en Québec, en Canada. Dans les data centers d'Exarion, c'est la filiale d'EDF.
D'accord.
Et là, on prépare des autres livraisons que j'espère on aura la possibilité de discuter la prochaine fois. On ne peut pas dire.
D'accord, c'est encore secret. Ouais. Et vous les fabriquez où, ces ordinateurs quantiques? Parce que j'imagine que ça nécessite une ingénierie assez complexe.
Oui, on a 2 centres de production. On a une salle blanche où on fabrique tous nos semi-conducteurs sous les plateaux de Saclay. Donc, c'est une salle blanche propriétaire de Quandela. Et on a une usine à Massy, inaugurée l'année dernière en juin, où on a l'assemblage des machines et les tests des machines avant la livraison. Donc on travaille vraiment sur l'industrialisation de ces processeurs.
Et aujourd'hui, votre business model est clair, c'est-à-dire que vous arrivez à cibler qui va être propriétaire en fait, de ce type de machine que vous fabriquez?
Oui, on travaille beaucoup avec les centres de calcul et les fournisseurs de cloud, parce que eux sont les centres et la communauté des utilisateurs, qu'ils passent de l'académique, des studios de recherche et les industriels. Donc, ces partenaires, c'est fondamental et on va recopier un peu ces modèles partout dans le monde.
Tout ça est dans le cloud ? oui. Michel Paulin, ça veut dire que vous le disiez, n'importe qui, enfin, en tout cas, qui veut s'intéresser à cette technologie, et notamment tous les chercheurs, pourront bénéficier gratuitement de cette technologie ?
Tout à fait. Donc, on est vraiment dans un modèle de cloud, c'est-à-dire à l'usage. Donc, pour des clients qui sont des clients industriels, vous pouvez déjà le faire. Et là, il y a une facturation à l'heure.
D'accord.
Mais si vous êtes, un étudiant ou si vous êtes aujourd'hui un chercheur, eh bien, vous nous contactez. Et à ce moment-là, vous avez le droit à ce qu'on appelle des vouchers qui vont permettre de le faire. Là encore, c'est assez complexe, donc il faut plutôt bien le préparer parce que c'est pas si simple à utiliser comme ça très facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une aide et une assistance qui est à faire.
Oui, il faut un mode d'emploi, j'imagine.
Voilà, c'est pas du codage de Python simple, voilà. Mais c'est faisable. Et donc on le souhaite. On a nous un partenariat avec des grandes écoles, Paris Tech. Mmh. On a un partenariat aussi avec des universités. Hier a été représentée l'université de Lille parce qu'on est très fiers de notre ancrage dans le Nord et qui a lancé toute une fédération aujourd'hui autour du quantique dans les grandes universités. Et donc, on va s'associer à eux pour que les chercheurs... Et d'ailleurs, on travaille avec 4 chercheurs dans le quantique aujourd'hui à l'Université de Lille, par exemple. C'est plutôt autour de ces gens-là qu'on va leur proposer ces services-là.
Bonne chance à Mosaïque, bonne chance à OVH Cloud et à Candela. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Tech & Co. Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, et Nicolas Somaski, cofondateur et directeur général de Candela. Merci à tous les deux. Et avant de parler de Tesla, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Elle est en train de s'installer. Kesso Diallo nous a rejoint. Bonsoir Kesso.
Bonsoir François.
Deuxième soirée de Tech & Co.
Exactement.
Ça va, tout va bien ?
Tout va bien.
Journaliste, donc, à la rédaction de Tech & Co. Et ce mardi, Kesso avec toi, on a appris que Meta pourrait réduire le prix de ses abonnements Facebook et Instagram en Europe.
Exactement. Et c'est une bonne ristourne que propose Meta. Face à la Commission européenne, Meta promet de diviser par deux le prix de son abonnement. Aujourd'hui, il est à 10 euros et il pourrait tomber à 6 euros. Et on parle ici de l'abonnement qui a été lancé fin 2023, qui permet aux utilisateurs de ne pas être ciblés avec des publicités, mais aussi de ne pas être pistés en ligne.
Alors c'est étonnant parce que cette offre est assez récente et déjà on divise quasiment par deux. Ça fonctionne vraiment si mal que ça pour qu'ils décident déjà de faire baisser le prix ?
Mais justement, la question c'est de savoir si cet abonnement n'a pas été conçu pour ne pas fonctionner. En fait, pour comprendre cette histoire, il faut remonter à 2018 avec le RGPD. Ça fait des années que Facebook nous piste en ligne sans nous demander notre consentement. Ce qui peut paraître illégal au vu du RGPD. Mais l'année dernière, les autorités européennes ont justement dit à Meta, stop. Maintenant, vous demandez le consentement des utilisateurs.
Et alors, pourquoi ils ne demandent pas tout simplement ce consentement, finalement ?
À votre avis, François ?
J'ai une petite idée.
Facebook a évidemment peur qu'on dise non. Et l'année dernière, les autorités européennes ont justement ouvert une brèche pour Meta en l'autorisant à faire payer les utilisateurs qui ne souhaitent pas être pistés en ligne, en évoquant une somme appropriée. Toute la question, c'est de savoir quelle est cette somme appropriée.
Et visiblement, ce n'est pas 10 euros.
Visiblement, non. La Commission européenne veut s'assurer que le prix de cet abonnement n'est pas dissuasif, ce qui risque d'être le cas avec 10 euros. Et quand on voit que Meta a proposé de le réduire de près de moitié, on se dit que c'est une bonne manière d'entamer les négociations.
Bon, Kesso, est-ce que vous allez vous abonner ? Est-ce que tu vas t'abonner à Facebook à 50% de rabais ?
Je pense pas.
Ben voilà.
Je pense ça m'a vraiment convaincu pour l'instant.
Déjà à 10 euros, ça nous passait au-dessus de la tête. À 5 euros, je pense que il va pas y en avoir beaucoup non plus.
Moi non plus.
Merci beaucoup, Kesso Diallo, donc de la rédaction de Tech & Co. 21h20. Si on parlait Tesla maintenant avec mon invité, écoutez, c'est parti.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Franck Cazenave nous a rejoint. Bonsoir Franck.
Bonsoir François.
Vous êtes l'auteur de Tesla a tué la bagnole. Voilà, que j'ai entre les mains, paru aux éditions Descartes et compagnie. Voilà.
Exactement.
Alors vous êtes un spécialiste de tout ce qui touche à la mobilité. Vous enseignez à l'école de commerce ESCA. Vous donnez des conférences en France et en Europe. Vous travaillez depuis 20 ans dans le domaine de l'innovation, des systèmes intelligents. Enfin bref, vous connaissez tout ça par cœur. Vous avez déjà écrit un bouquin sur Google. C'était aux éditions Pearson en 2014. Et même de la robot mobile, c'était en 2022. Pourquoi êtes-vous intéressé à Tesla ?
Bon, en fait, c'est pas tout à fait nouveau parce que déjà dans la robot mobile, donc qui parle des véhicules autonomes, j'avais dédié aussi des passages sur Tesla parce que Tesla veut développer le véhicule autonome avec une approche un peu différente par rapport à ses concurrents. qui sont Cruise, Waymo, Elon Musk est ferme, il ne veut utiliser comme capteur pour le véhicule autonome que les caméras.
Oui, c'est vrai.
Voilà, en disant que les caméras
sont nos yeux. Il y avait la bataille des lidars, et ceux qui utilisaient les lidars, et lui a dit, c'est pas la peine, ça coûte trop cher, on n'en a pas besoin.
Exactement. Et donc, pour l'instant, le pari n'est pas encore gagné, puisqu'il n'y a pas de véhicule complètement autonome de niveau 4, donc où le conducteur n'a pas besoin d'avoir les mains sur le volant, de surveiller la conduite, qui est dans la rue. Mais Tesla y travaille, et Elon Musk veut réaliser ce pari pour se différencier de la concurrence.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous dites que Tesla a donné un grand coup, en fait, à toute l'industrie automobile. De part déjà l'électrique, parce qu'ils ont misé très tôt sur l'électrique, alors que les historiques de l'automobile se réveillaient à peine. Hein. On était en plein Dieselgate à l'époque, hein, pour vous dire un petit peu le contraste, mine de rien. Et l'informatique, parce que Tesla, c'est aussi des voitures qui se mettent à jour la nuit, quand on dort, et qui apportent de nouvelles fonctionnalités le matin, quand on rentre dans la voiture. Et ça, en fait, c'est compliqué pour les constructeurs automobiles traditionnels de s'en remettre, non ?
C'est-à-dire que les constructeurs traditionnels ont absolument besoin de se mettre au niveau de Tesla. Donc ça, c'est un enjeu pour eux. On entend beaucoup les constructeurs parler de software defined vehicle. Ça veut dire un véhicule qui a un ordinateur sur roue où on peut faire des mises à jour de logiciels. Et donc ça, c'est absolument important pour que l'expérience du conducteur, elle continue à évoluer dans le temps. Et puis, l'électrique, c'est vrai que Tesla a démarré en 2003. L'année dernière, Tesla a vendu 1,8 million de véhicules. Et donc, Tesla est le leader des véhicules électriques, loin devant tout le monde, sauf les Chinois, qui sont en embuscade, mais avec des véhicules qui coûtent moins cher.
Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Parce qu'on en est qu'au début de l'histoire de Tesla. Là, tout sourit à Tesla, alors qu'il y a encore quelques années, c'était une boîte qui était au bord de la faillite, hein, on s'en souvient. On évoque là un nouveau modèle qui devrait sortir dans quelques mois, enfin, ou quelques années, qui pourrait être un modèle peut-être plus adapté, en fait, aux Européens.
Tout à fait.
Donc, tout va bien pour Tesla.
Tout va bien. Donc cette année, le Roadster va sortir, qui a été le premier véhicule de Tesla, qui va être un véhicule très haut de gamme, sportif. Voilà. Et puis effectivement, le grand enjeu, c'est le véhicule citadin, urbain, en dessous de 25 000 euros. C'est un marché colossal dans le monde. Il y a 750 millions de véhicules urbains. Et donc Tesla veut attaquer ce marché.
Ce qui est intéressant en plus avec Tesla, c'est que, et vous le dites très bien dans votre livre, c'est qu'il y a tout l'écosystème de l'automobile. Il y a l'automobile, mais il y a aussi 50 000 superchargeurs qui sont partout dans le monde.
Tout à fait. Donc, la grande différence de Tesla par rapport à tous les constructeurs automobiles, c'est aussi un énergéticien. Il vend de l'électricité. Et donc, il y a un chapitre qui est dédié sur cette partie. Et je pense qu'en 2030, la plus grande profitabilité de Tesla ne viendra pas des voitures, mais de la vente d'électricité.
La gestion d'énergie.
Exactement.
Donc, il va encore multiplier ses superchargeurs.
Tout à fait.
Qui sont ouverts à la concurrence. Alors, c'était pas lui qui le voulait, je crois. Hein. On l'a un peu poussé à devenir un petit peu universel, je crois.
Donc en fait, l'administration Biden a demandé à Tesla d'ouvrir ses réseaux à ses concurrents, mm-hmm. En échange de subventions pour installer de nouveaux chargeurs. Donc en fait, Tesla est à nouveau gagnant, avec plus de chargeurs qui vont être installés aux États-Unis.
La question aussi qu'on se pose, c'est que est-ce que les constructeurs historiques qu'on connaît, hein, qu'ils soient français, alors le groupe Stellantis, Renault, mais aussi BMW, Volkswagen, comment réagissent-ils par rapport au succès de Tesla ? Est-ce qu'ils suivent Tesla en le copiant, ou est-ce qu'ils gardent malgré tout leur ligne directrice ?
Bon, d'abord les constructeurs traditionnels continuent à être multi-énergie. Donc, ils vendent des véhicules thermiques.
Ce qui n'est pas le cas de Tesla,
voilà,
qui
fait hybride que l'électrique. Et électrique. Donc, mais ça, bon, c'est plus difficile pour eux.
Mais 2035, voilà, il y a cette échéance de 2035.
Tout à fait. En 2035, la vente de véhicules neufs sera interdite pour les véhicules thermiques. Donc, ça veut dire que l'industrie automobile européenne doit se transformer, doit devenir 100% électrique. Et ça, c'est un défi majeur pour tous les constructeurs automobiles. Je pense qu'il y a besoin d'aide de la part de l'Union européenne. J'en parle dans le livre. Ce que font les États-Unis, les Chinois et l'Union européenne a besoin d'aider la filière.
Oui, et puis il y a toute la data aussi que récoltent ces véhicules, et notamment Tesla. Est-ce que c'est pas aussi ça l'or du futur pour Elon Musk? La data récoltée dans les voitures.
C'est déjà l'heure du futur puisque Tesla vend sa propre assurance grâce à une évaluation de la conduite du conducteur. Et donc, votre prime d'assurance varie suivant votre score. Et donc, ça veut dire que ce sont les données qui permettent de faire le scoring du conducteur.
Parce que vous accélérez, parce que vous freinez, parce que vous allez trop vite.
Exactement.
Parce que vous avez une conduite brusque, etc. Tous les capteurs dans la voiture enregistre tout ça et donne ça aux assurances, en fait.
Tout à fait. Et, enfin, donne ça aux assurances. Tesla utilise pour faire...
Pour faire sa propre assurance.
Voilà, sa propre assurance et ne donne pas les données à d'autres assureurs, mais le garde pour lui, analyse la performance des conducteurs et fait évaluer la prime. Attention quand même, j'en parle dans le livre, il y a des conducteurs qui font une action en justice parce qu'ils disent « Moi, j'avais pris une assurance à, par exemple, 600 euros par an et puis maintenant, c'est 800. » Et donc, le contrat initial a évolué. Et moi, je me serais pas engagé pour 800 euros. Donc, la data a des vertus, mais attention, elle peut avoir aussi...
Oui, des effets pervers.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Franck. Et cet ouvrage, donc, disponible chez tous les bons libraires et en ligne, bien évidemment. Tesla a tué la bagnole, paru aux éditions Descartes et compagnie. Merci beaucoup, Franck Cazenave, d'être passé par le plateau de Tech & Co. Et on va se souhaiter une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis, bien sûr. Demain, mercredi, nous serons là dès 20h pour une émission exceptionnelle, les amis, puisque pendant 1h30, en compagnie d'un invité prestigieux de Jean-Baptiste Huette, que vous connaissez, journaliste à BFM Business, on va parler de tourisme spatial et se projeter, aller dans quelques années pour imaginer à quoi pourrait ressembler ce tourisme spatial. Et vous verrez qu'il y a encore pas mal d'obstacles, mais on en parlera demain dès 20h pour une émission spéciale. À demain, dès 20h, je compte sur vous.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.